France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Olivier Tesquet, spécialiste des questions numériques à Télérama. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on va revenir sur la purge qu'a mise en place Twitter, suppression du compte de Donald Trump, de 70 000 comptes liés à ses supporters cette semaine. Idem pour Google qui a suspendu sa chaîne YouTube. Alors, on va essayer de comprendre en fait aujourd'hui comment on en est arrivé là. Alors, peut-être faut revenir à l'origine. Twitter, c'est quoi? Ça part d'où? Qui est derrière?
Alors Twitter, c'est un réseau social qui est monté en 2006. Aux États-Unis, avec cette promesse tout de suite d'être le réseau social vraiment de l'instantanéité. C'est-à-dire, pendant longtemps, on pouvait écrire ses micro-messages en 140 caractères. Ensuite, ça a été doublé, hein, c'est devenu 280. Et très vite, en fait, Twitter est devenu le lieu de la parole publique, de la parole politique, de la parole...
Mais qui crée ça, au départ?
Alors, Twitter est créé par des entrepreneurs de la Silicon Valley, comme il en existe beaucoup d'autres. La différence avec un Facebook, par exemple, c'est que aujourd'hui, Facebook est toujours dirigé par Mark Zuckerberg, qui a créé ça dans sa chambre d'étudiant à Harvard, là où Twitter a été monté par un certain nombre d'entrepreneurs, BizStone par exemple, qui ont quitté l'entreprise et aujourd'hui, Twitter est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Jack Dorsey, et qui doit rendre des comptes des actionnaires. Et la différence aussi avec Facebook, par exemple, c'est que Twitter ne gagne pas d'argent. Donc aujourd'hui, il y a aussi une pression très très forte à faire grandir la communauté, à accroître le nombre d'utilisateurs, qui est bien moindre par rapport au nombre d'utilisateurs de Facebook, là aussi, sur Facebook, on parle de plus de 2 milliards de personnes. Sur Twitter, on a entre 300 et 400 millions, on va dire. Et donc, comme il y a toujours eu ce besoin de croissance assez exponentielle, Twitter est devenu le lieu de la parole publique, politique et médiatique.
Quand vous dites qu'ils ne gagnent pas d'argent, c'est quoi son modèle?
Eh ben justement, le problème de Twitter aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de modèle économique. Ils n'ont pas pu devenir comme un Facebook ou un Google, une régie publicitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle économique de ces géants-là, pour ne citer qu'eux, c'est d'être d'immenses régies publicitaires. Donc, d'aspirer quantité de données sur
de
nous,
faire apparaître de la publicité
et ensuite de vendre des espaces publicitaires à toutes sortes d'acteurs et donc à partir de là à monopoliser vraiment le marché de la publicité en ligne, ce qui est pas le modèle de Twitter. Et donc ça fait des années qu'ils cherchent un peu justement à trouver la bonne formule, ce qui a d'ailleurs fragilisé à de nombreuses reprises la position de Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui est passé plusieurs fois près de la sortie. En plus, une personnalité assez particulière, il part faire des retraites de yoga vipassana pendant des semaines. Enfin voilà, c'est un vrai personnage.
C'est assez classique chez les GAFA, ça.
Alors c'est effectivement aussi un personnage très emblématique de la Silicon Valley, quoi. C'est-à-dire qu'il se laisse parfois pousser une barbe énorme, il a un piercing dans le nez, donc il cultive un côté un peu contre-culture comme ça, tout en étant parfaitement emblématique de ce qu'est aussi l'économie des startups et de la Silicon Valley.
Alors parlons du fond maintenant et de ce qu'est devenu effectivement Twitter, vous le disiez, c'est devenu le lieu de la parole publique, et même nous d'ailleurs les journalistes, on en a accepté les codes, puisque sur nos propres articles maintenant, plutôt que de citer comme on le faisait des communiqués ou des extraits de phrases, on publie in extenso les tweets.
En fait, c'est là où s'est concentrée effectivement toute cette parole public tel qu'on la connaissait avant à la télévision par exemple, ou effectivement dans les communiqués de presse, etc. Et donc au fil des années, Twitter est devenu ce lieu inévitable pour les journalistes, pour les personnalités politiques, pour les personnalités du monde du spectacle, du show business, on appelle ça comme on veut. Mais c'est devenu le lieu effectivement où on prend la parole en public avec toutes les conséquences, y compris les conséquences néfastes que ça peut impliquer.
Oui, parce que ça pose une question démocratique aujourd'hui, on se rend compte. Alors on peut considérer que finalement d'avoir viré Trump du réseau, c'est salutaire. Bon, chacun peut penser ce qu'il veut. Mais c'est aussi révélateur du fait qu'un opérateur privé aujourd'hui, sur la base de sa seule décision, peut vous exclure du débat public.
Alors c'est vrai, et c'est particulièrement intéressant sur Twitter, parce que à la différence du débat sur Facebook par exemple, Facebook il y a deux aspects. Il y a vraiment l'aspect un peu police privée, hein, et puis il y a évidemment le côté antitrust, faut-il les démanteler parce que ce sont des puissances économiques gigantesques, ce qui n'est pas le cas encore une fois de Twitter. Donc Twitter, c'est une question purement politique, c'est de savoir est-ce qu'on estime qu'une entreprise privée devrait faire valoir ses conditions générales d'utilisation plutôt que le droit tel qu'il a été édicté par le législateur,
le juge.
Alors je note quand même là-dessus une forme d'hypocrisie des gouvernements, parce que on a vu tout un tas de responsables politiques français ou étrangers, je pense à Angela Merkel par exemple, qui ces derniers jours se sont émus de ce bannissement de Trump en se disant si ça lui arrive à lui, ça pourrait nous arriver à nous, et puis pourquoi Trump et pourquoi pas Erdogan, ou donc effectivement il y a il y a un côté discrétionnaire, mais il faut aussi voir que depuis des années, la puissance publique, et notamment en Europe, a renforcé considérablement le pouvoir des plateformes en leur octroyant un droit de police privée et de cours de justice privée, en leur disant au nom de la lutte antiterroriste, vous devez censurer les contenus de plus en plus rapidement. Et donc, on sent à travers cet exemple une volonté des gouvernements un peu de par le monde de reprendre la main et de dire aux plateformes, force revient à la loi, et c'est la loi qui doit primer sur les conditions générales d'utilisation des plateformes.
Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas Facebook, si vous n'avez pas YouTube, si vous n'existez pas.
Et a fortiori quand vous êtes une personnalité politique. C'est-à-dire qu'on peut aussi se poser la question de pourquoi Twitter et les autres réseaux sociaux, les autres plateformes, ont décidé de bannir Trump maintenant. Pourquoi elles bannissent Trump et pas un autre? Et aujourd'hui, il n'y a pas non plus une transparence immense de la part de ces plateformes pour justifier leurs décisions.
Alors un mot aussi de l'autre actualité de la semaine. Les réseaux sociaux étaient très présents avec cette nouvelle politique de WhatsApp qui donc demande l'autorisation à ses utilisateurs de partager ses données avec Facebook. Alors, quelles conséquences ça va avoir? Et là, faut séparer les choses selon qu'on est européen ou pas européen.
Donc effectivement, WhatsApp a été racheté par Facebook. Et là, il a été annoncé que désormais, les données de WhatsApp seraient exploitées de la même façon finalement que les autres données de Facebook. Alors effectivement, en Europe, il y a cette chose qu'on appelle le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est entré en vigueur en mai 2019 et qui protège davantage les communications.
C'est-à-dire que WhatsApp ne pourra pas, par exemple, communiquer notre numéro de téléphone portable à Facebook.
Voilà, il y a un certain nombre d'informations qui sont protégées pour les utilisateurs européens. Après, une fois qu'on a dit ça, on observe, et c'est assez intéressant, là, depuis quelques jours, une migration assez massive
vers d'autres messageries
qui sont plus protégées. Qui sont des messageries chiffrées, plus protectrices de la vie privée.
Mais pour les Américains, donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Pour les Américains, ça veut dire que Facebook va pas s'amuser à venir regarder dans les conversations pour savoir exactement ce qu'il s'y dit. Par contre, il récupère toutes les métadonnées, donc un peu tout ce qu'il y a sur l'enveloppe, et à partir de là, peut l'utiliser à des fins de ciblage publicitaire. Évidemment, c'est croisé avec toutes les autres informations, et Dieu sait qu'il y en a, qui sont glanées par Facebook quotidiennement sur ses utilisateurs.
Mais là aussi, ça peut donner le sentiment qu'on est prisonnier d'un écosystème qui s'auto-alimente, et là encore, tout cet écosystème fait qu'on est piégé, prisonnier, parce qu'on n'a plus d'autres solutions aujourd'hui pour communiquer.
Ça devient très difficile de s'en sortir, parce qu'effectivement, ça crée une forme de continuum, comme ça, où quel que soit l'endroit où on va sur Internet, ces petits morceaux de nous, d'informations intimes qu'on sème quotidiennement sur les réseaux sociaux, sont ensuite exploité à des fins commerciales par ces grandes plateformes. Et c'est vrai que quand on voit ces migrations vers des messageries chiffrées, parfois ça peut sembler un peu dérisoire. C'est pas tout à fait comme ça non plus qu'on réussit à reprendre le contrôle et à rétablir un peu, enfin au moins dans de certaines proportions, le rapport de force entre nous et ces immenses plateformes monopolistiques.
Bien, merci Olivier Tesquet. Voilà notre sujet de réflexion pour le week-end. Alors j'en profite d'ailleurs pour annoncer que vous publierez le 4 février un livre qui est consacré à un autre sujet, mais ça reste numérique. État d'urgence technologique, c'est son titre. Comment l'économie de la surveillance tire parti de la pandémie ?